cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, ils ne pouvaient pas nous voir non plus, hein. C'est le Polak qui nous appelait tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout des Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les villages de betteraves.
Travailler le nez. Le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM évoque aujourd'hui la situation des femmes qui travaillaient à la tâche et celle des enfants.
Depuis le début du siècle, les femmes, sauf les bonnes de ferme, ne travaillaient pas régulièrement dans les exploitations, mais elles prenaient souvent des travaux à tâches et parfois tous les travaux à tâches qui se présentaient. Deux femmes d'ouvriers agricoles de Brégy s'en souviennent.
Quand on arrachait les pommes de terre au croc, et ben on partait à quelle heure c'est pareil, hein, on partait de bonne heure, puis c'était ça toute la journée. Hein.
Et après les haricots.
Puis après c'était les haricots. Moi les petits pois, j'ai vu passer, aller faire les petits pois bouillants aussi à Cirozois. Je passais à Bouillancy, il était 3h du matin. Mm-hmm. Hein, puis j'avais déjà deux enfants. Hein. Mm-hmm. Je partais au petit pois comme ça et puis je revenais à 8h du soir. Tout ça des travaux à tâches.
Un ouvrier d'Ormoil d'Avien nous rappelle qu'elle participait aussi aux grandes campagnes comme les betteraves et la moisson.
Il faisait les betteraves, il faisait la moisson. Mm. Il allait couper les chardons aussi. Mm. Des pulvérisateurs, ça n'existait pas non plus pour le nettoyage des céréales. Donc, il y avait des enfants, des femmes qui faisaient par saison, hein, travaillaient pas tout le temps.
Lorsqu'il n'y avait pas de grand-mère pour garder les petits, elle les emmenait au champ. Une commerçante qui tenait un café épicerie dans le Mulsien se souvient des difficultés de sa voisine.
Elle amenait le petit couché dans les bottes de foin, tout ça, pendant qu'elle travaillait. Il fallait qu'ils se débrouillent. Ils n'avaient pas les moyens de faire garder les enfants. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne gardait pas les enfants non plus. C'est plus comme aujourd'hui.
À Brégy, on adoptait les mêmes solutions.
Moi, j'ai pratiquement toujours travaillé. Moi, j'ai vu emmener Landau dans les champs et puis travailler avec. Et puis lui, il en emmenait deux. Puis moi, j'en emmenais deux. Il emmenait les deux plus grands, puis moi, les deux plus petits. C'était ça. Hein, les haricots, tout ça, quand on les emmenait, qu'il pleuvait et puis tout. On a fait ça. Hein. Je passais vers 3h, 3h30 à Bouillancy, au clocher de Bouillancy, et je revenais chercher mes deux plus grands, Marie-Hélène et Gérard, et je les ramenais l'après-midi avec moi. Le matin, on s'en occupait. Oui, là, j'avais la mobilette.
Puis la carriole derrière.
La voiture derrière. J'emmenais mes deux plus vieux. J'ai eu ma fille qui a eu la coqueluche. Eh bien, le docteur m'avait dit qu'il fallait qu'elle soit en plein air. Eh bien, je vous assure que ça lui a fait du bien.
Une ouvrière qui a aujourd'hui 82 ans raconte ce que les enfants étaient amenés à faire vers 1923 pour permettre à leur mère de travailler.
J'allais faire l'école à 11 ans. Maman, elle a eu ma petite sœur le 5 mai. Le 13 mai, je faisais ma première communion. On a baptisé ma petite sœur. On faisait toujours un baptême, une communion. Ce n'est pas difficile. Ça faisait moins de frais. Et puis maman, elle arrachait les betteraves avec mon père, ma petite sœur, elle est du mois de mai. Et maman, elle arrachait les betteraves. Et puis il fallait que je mène ma sœur pour lui donner le sein. Puis un après-midi, il y a fait un orage terrible et j'ai dit, ouais, je ne peux pas l'amener. Je ne peux pas emmener la gosse comme ça dans le landau. Alors j'avais du lait, j'ai fait cuire du tapioca, j'ai mis du sucre. Puis je les gavais, puis je les changeais, on mettait des langes à ce moment-là, on mettait pas des couches.
Interrogé pour la rédaction d'un livre sur les habitants du Valois, intitulé « La terre promue », une assistante sociale du canton de Crépy loue le courage des femmes polonaises qui reprenaient le travail des betteraves avec leur nouveau-né quelques jours après avoir accouché. Cependant, le maintien des traditions du pays leur donnait aussi l'occasion de passer de bons moments, ce qui était le cas lorsqu'elles fabriquaient les couettes bien avant que nous adoptions cette forme de couverture.
Ils gardaient des bêtes, ils avaient des oies, tout ça. Alors, des fois, il y avait des troupeaux de d'oies. Chaque ménage en avait au moins 10-12. Après, tous les ans, ils faisaient des plumes, des couettes, voilà. Alors, ils se réunissaient chaque semaine, ils allaient chez une personne, 5-6 femmes, okay. Puis ils faisaient les plumes. Rien que le vivait, oui. Alors, ils faisaient ça. Mais alors, bon, bah, ils s'arrangeaient toujours pour finir le samedi. Alors, le samedi, c'était la java, si on veut. Ils faisaient des gâteaux, tout ça, ils mangeaient, tout ça. Ils dansaient un peu, tout ça. Si, il y avait l'ambiance.
L'organisation s'est développée, le volume de travail offert aux femmes a diminué. Elles acceptèrent parfois des travaux bien différents, comme du raccommodage qu'elles faisaient chez elles, ou, pour l'une d'entre elles, qui était très habile en la matière, de la peinture et la pose de papier peint dans la maison de sa patronne.
Mais il faut dire aussi que pour les femmes, ces travaux à la tâche étaient rarement déclarés, sans doute d'un commun accord avec l'employeur. Et ce n'est qu'au moment de faire valoir leur droit à la retraite qu'elles prennent conscience du manque à gagner.
Commencer les bottes, oui. Faire la fanasse, répondre au fumier, tout ça.
À la fourche.
Oui.
Non déclaré.
Non déclaré, oui.
Exactement, c'est
et
sûr.
Non retraite après.
La retraite.
Eh bien, on a des années au moins.
La surprise, là.
Ça se passe en même temps que...
Moi, quand je travaillais, j'étais jeune fille, ben, c'était sur la feuille de mon père. Oui, et voilà. Après, ben, quand j'ai travaillé, ben, c'était pareil. Quand on faisait des travaux à tâche, c'était sur sa feuille de paie.
Sans oublier que les salaires payés pour des travaux à la journée, auxquels les femmes pouvaient participer, comme les battages, étaient toujours inférieurs à celui des hommes. Nous avons relevé sur la convention collective signée en 1936, une des premières, que le salaire des femmes à la journée était fixé aux 2/3 de celui des hommes, soit au minimum 16 francs, alors que les hommes touchaient 25 francs. Cette différence de salaire entre les hommes et les femmes était générale à cette période, tant dans l'agriculture que dans l'industrie ou le commerce.
L'exclamation d'une ancienne ouvrière agricole a un sens.
Non, vraiment... Quand je pense à tout ça, je dis c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Considérant l'ampleur du travail des femmes, on peut se demander comment se déroulait la scolarité des enfants, des ouvriers agricoles, tout au moins de 1920-1960. Pour cette période, le dépouillement des registres d'immatriculation des enfants s'inscrivant à l'école publique d'Ormois-le-Davien nous donne quelques éléments de réflexion. Cette commune comptait 154 habitants en 1935. Et, selon les années, la classe unique rassemblait de 25 à 30 enfants. Nous découvrons tout d'abord que 80% des enfants étaient issus de familles d'ouvriers agricoles, puis que plus de la moitié des enfants d'ouvriers agricoles inscrits étaient d'origine étrangère, essentiellement polonais, avec des temps forts, comme en 1933, où, sur 12 nouveaux inscrits, 11 étaient polonais.
On peut être effaré en imaginant que dans une classe de 25 élèves, 11 nouveaux inscrits ne parlaient que le polonais. La réalité était très différente, car même dans les années 20, la plupart de ces enfants étaient arrivés très petits et souvent nés en France. L'école française avait été leur première école, ce qui facilitera leur apprentissage de la langue, comme nous l'explique une commerçante de Mermulsien.
On a tout le temps été avec les Français, et si bien que les enfants ne voulaient même pas parler polonais. Il fallait que les parents se mettent à leur langue. C'était l'inverse. Au lieu que ce soit les parents qui apprennent les enfants à parler, c'était les enfants qui apprenaient les parents à parler français. Alors, moi, je connais beaucoup, beaucoup des Polonais ici. Ben, les enfants sont nés là. Alors, tout de suite, ils ont été à l'école ici. Ben, ils parlent tous français.
Un instituteur qui a enseigné dans une classe où le pourcentage de Polonais était considérable, 27 enfants sur 30, a été frappé par la correction de leur langage. Leur premier apprentissage du français s'était fait à l'école et n'était pas déformé par les habitudes du langage de leurs parents, comme c'est souvent le cas pour les Français de souche. Cette capacité des enfants d'apprendre une langue en pays étranger explique sans doute la réussite d'un certain nombre d'entre eux, mais la mobilité extrême de leur famille, surtout entre 1920 et 1939, et à la même époque, la participation directe ou indirecte des enfants aux travaux des champs, seront des handicaps certains.
Sur les registres d'inscription d'Ormois, les dates d'arrivée et de départ des enfants étaient notées. Et l'on constate ainsi que près de la moitié des enfants restaient moins d'un an à l'école, et parmi eux, certains ne restaient que quelques mois. Quelques-uns rentraient dans leur pays d'origine, mais la plupart partaient avec leurs parents qui allaient travailler dans une autre ferme de la région proche ou dans les départements voisins. Quant à la façon dont les enfants dépendaient du travail des adultes, écoutons le témoignage de personnes qui avaient une dizaine d'années en 1940.
Au moment des saisons, les enfants n'allaient pas à l'école. Au moment de la moisson et des binages de betteraves.
L'arrachage des betteraves.
L'arrachage des betteraves. Binage des betteraves, et avant, les enfants n'allaient pas à l'école. Alors les plus grands, ils gardaient les petits. Les plus grands, ils n'allaient pas à l'école pour garder les petits.
Mais les enfants ne faisaient pas que garder les petits. Avant la rentrée des classes, ils allaient aux pommes de terre.
Pommes de terre, les cultivateurs, à ce moment-là, ils en faisaient tous, hein. Et s'arrangeaient entre eux pour savoir, avant la rentrée d'école, pour pouvoir récupérer tous les gosses, avant qu'ils aillent à l'école. Parce que les gosses, ils traînaient pas à ce moment-là, ils allaient ramasser les patates. Ça se bagarrait dans les champs.
Et après la rentrée, ils pouvaient aussi manquer l'école pour travailler avec leurs parents. Nous sommes à Vaucienne à la fin des années 30.
Quand c'était les betteraves, non, je n'allais pas à l'école, sauf que j'allais aider maman. C'est pour couper les betteraves. Elle, elle arrachait et moi, je coupais. Puis comme j'étais gauchère, alors je coupais de la main gauche.
La demande faite à l'instituteur d'Ormois lorsqu'il a pris son poste en 1945 est une trace de cette habitude.
À la sortie de la guerre, on devait demander l'autorisation d'envoyer les enfants dans les champs, c'est pour aider les parents à moins de l'arrachage des betteraves ou des pommes de terre. Et justement, on est intervenu parce que l'inspecteur nous a mis en garde en disant ceux qui ne viendront pas à l'école auront leurs allocations supprimées.
De toute façon, ceux qui ont vécu cette période ont souvent le mot de la faim.
C'est-à-dire, j'ai pas été élevé, pas avec un martinet, hein. Non, mon père battait rarement, mais fallait travailler.
sur un autre plan, à une époque où le problème de l'insertion des étrangers est au centre des débats, on peut se demander comment ces enfants polonais étaient acceptés par les autres enfants. Un ancien élève de l'école de Vaumoise a quelques souvenirs.
On était à Vaumoise à l'école. Puis le jour de mon certificat, je me suis sauvé. J'ai pas oublié le certificat. Pourtant, je m'apprenais pas mal. J'étais tout le temps bien considéré à Vaumoise à l'école. À Paratoyo, c'était M. Dalu.
Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants polonais?
C'est-à-dire qu'il y en avait pas mal. Hein. Ouais. Alors bon, comme nous à Vaumoise, quand j'étais à Vaumoise, entre les jeunes, ils pouvaient pas nous voir non plus. Hein. Sale Polak qui nous appelait tout ça. Puis, c'était ça. La plupart, sale Polak. Oui, c'était un peu dur.
C'est entre les enfants.
Oui, entre les enfants. Parce que.
Un coup de pierre.
Alors après, on se bagarrait un peu quand même. Mais on ne se sait pas faire quand même. Hein. Parce que ils nous appelaient polonais, ça a été marché. Mais sale polonais.
Et
deux fois, on était encore plus propre qu'eux. Alors, c'était ça. C'est... Parce que moi, je me rappelle, avant moi, on y allait avec des copains et tout ça. Ils avaient plein de poux, tout ça, sur la tête. Hein.
À cette époque, il était courant que les enfants quittent l'école pour travailler le jour de leurs 13 ans, fin de la scolarité obligatoire. Plusieurs interlocuteurs nous ont expliqué comment ils étaient entrés dès le jour de leur sortie de l'école dans la ferme qui employait leur père. Nous avons choisi de vous faire entendre un ouvrier de Brégy qui, avec son voisin, les résume tous.
C'est d'une simplicité dérisoire, n'est-ce pas? Moi, je suis natif pratiquement d'ici. Hein? Marie-Louise est d'ici. On a toujours vécu ici, en fait. Et arriver dans la culture, c'est pas difficile, c'est une tradition. Mon père, il travaillait automatiquement quand tu avais l'âge. Allez hop, on t'envoyait travailler dans la ferme. Hein, René ? Et au point qu'on était déjà placé avant quand on était encore en classe. On savait déjà qu'on irait chez M. Intel ou chez M. Intel. Moi, 13 ans. Même avant, un petit peu.
Mais 13 ans, c'était l'âge qu'on rentrait directement, mais on avait déjà.
Oui, c'est ça. Hein. On avait déjà quand même fait nos jeudis pour se dégourdir les jambes et puis tout le restant. Faut pas l'oublier. Et souvent, après 4 heures, hein, bien souvent. C'était une routine presque. Plutôt que de traîner dans les chemins et dans le pays, on allait miner les betteraves avec la mère souvent. Parce que le père voulait jamais faire ça.
C'était L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulcien. Aujourd'hui, la situation des femmes et des enfants. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois. Une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.